de Edward Rod. Là-haut. À mon ami Edouard Béranec. Mon cher ami, c'est toi qui m'as appris à aimer les Alpes. Permets-moi donc de t'offrir ce roman où j'ai tâché de décrire la vie qu'elles cachent dans leur repli. Tu y retrouveras le souvenir de belles courses que nous avons faites ensemble, des traits du village auxquels nous attachent tant de souvenirs, les tiens si douloureux, la silhouette de l'ami très cher, Émile Javel, dont tu as pieusement publié le beau livre posthume, ces « Souvenirs d'un alpiniste », auxquels je me suis permis de faire quelques emprunts. Tu y retrouveras surtout, j'espère, notre tendresse profonde pour ce petit coin du monde que nous aimons tant. Si tu entends dire que j'ai flatté nos montagnards, toi qui sais ce qu'ils valent, tu les défendras. Peut-être ont-ils des défauts qu'il ne m'a pas convenu de mettre en lumière. Pourtant, je sais bien que dans le moindre village, il y a tout ce qui fait le monde, du bien et du mal, de la poésie et de l'intérêt, de la grandeur et de la bassesse. Mais si j'ai cherché à donner à mon livre une tonalité de mon choix, c'est que j'aurais voulu qu'il fût frais et sain comme l'eau qui sort des glaciers, comme le vent qui court dans les hauts pâturages. Accepte-le tel qu'il est, en gage d'une amitié qui date de l'âge où l'esprit s'éveille, que la séparation n'a jamais diminué, qui durera sans doute autant que nous. En te l'offrant, il me semble que j'en donne une part à nos amis de là-haut, alpinistes ou paysans, à nos compagnons de course, aux guides avec lesquels nous avons passé tant de belles heures, aux braves gens qui nous prêtent leur logis et remplissent nos verres de leur bon vin généreux. Il me semble aussi que ton nom sur sa première page, ô vieux coureur de sommet, dira mieux que je n'ai su les dire mon amour et ma piété pour nos belles Alpes, patrie de nos rives, de nos plus pures pensées, de nos joies les meilleures. À toi, Edouard Rod, Paris, novembre 1896. Première partie, chapitre 1. Le train repartit, suivant le Rhône aux eaux brouillées, entre des marécages et des lignes de peupliers, vers le rétrécissement de la vallée qui paraît se fermer des quatre côtés. Le long du fleuve, des montagnes aux flancs boisés, aux sommets chauves, se rapprochent avec des airs de murailles, toujours dominés par la dent de Morcle. Bloc énorme, fendu de crevasses, strié de névés, hérissé de proéminences rocheuses, qu'en cette fin d'après-midi, les jeux étincelants du soleil coloraient de tons violents de pourpre, d'or et d'améthyste. Ainsi, jusqu'aux environs de Saint-Maurice, où le passage devient plus étroit encore, à peine suffisant pour laisser fuir le fleuve, la route et le chemin de fer, comme si, d'un geste brusque, les Alpes étranglaient la vallée pour la séparer du monde. De l'autre côté, cependant, du côté de Martigny, un élargissement des marécages dessine un triangle presque régulier. Puis les montagnes se rapprochent de nouveau, barrant la route, tandis qu'à l'horizon, par-dessus les cimes plus basses, le Grand et le Petit Combin emplissent un pan au ciel de leur double coupole de neige. Leur grandeur isolée, la monotonie de leur forme irrégulière, le froid éclat de leur glacier où la lumière semble mourir, répandent je ne sais quelle tristesse infinie sur cette petite station valaisanne de Serviaise, qui s'anime un instant au passage des trains pour redevenir aussitôt silencieuse sous la garde écrasante des géants. Julien Sterny s'était oublié sur le quai d'arrivée à contempler ce paysage inattendu. De plus près, les montagnes se faisaient plus accueillantes. De grands arbres frais ombrageaient des sentiers le long des pentes, de clairs ruisseaux écumaient, s'argentaient, étincelaient en folle descente. À main droite, une masse d'eau tombait d'un seul coup en cascade épaisse et sonore. Julien remit son ticket à un employé en casquette de toile cirée et blouse bleue, fit quelques pas et se trouva devant la gare. Un autre voyageur, dont il avait déjà remarqué dans son wagon la carrure importante, serrait des mains, gesticulait un moment, puis montait dans une petite voiture à roues basses qui l'emporta, suivi par les regards de tous les montagnards qui se trouvaient là, en deux ou trois groupes. C'étaient de solides gaillards, aux membres lourds, aux fortes ossatures, aux peaux tannées, remuant avec lenteur, comme si leurs mouvements eussent été gênés sur le sol plat. Quelques-uns finirent par remarquer Sterny, qui ne savait que faire, et le dévisagèrent à distance, avec un mélange de méfiance, de bonhomie et de timidité. À la fin, l'un d'entre eux, qu'à sa casquette galonnée on reconnaissait pour un portier d'hôtel, l'aborda. « Grand hôtel de la cascade, monsieur ?» Un autre aussitôt s'avança. « Hôtel du Combin ?» Puis un troisième. « Monsieur Montavionnet, peut-être ?» Un autre encore. « Ou Avalanche ?» « Oui, c'est cela, Avalanche, » dit Sterny. « Alors, monsieur veut une voiture ?» Quoique renseigné sur la route, Julien demanda « Combien de temps pour la monter ?»« 1 heure et demie. » C'était exactement ce que lui avait dit à Interlaken le peintre Georges Croissy, auquel il devait de se trouver là, loin des stations célèbres, dans ce coin ignoré du Bas-Valais. La distance ne l'effraya pas. « Je monterai à pied, » dit-il. L'homme qui avait parlé le premier de Valanche demanda, les autres s'étant effacés. « Et les bagages ?»« Ma malle arrivera plus tard. Pour cette valise, un porteur suffira. Voulez-vous vous en charger ?»«
Je veux bien. »«
Combien pour cela ?» L'homme se gratta l'oreille, regarda ses camarades qui se désintéressaient de la scène, finit par répondre « Le tarif, c'est 3 francs. » « Entendu. » Aussitôt, il prit la valise, la soupesa, et, la jugeant trop légère pour qu'un crochet fût nécessaire, la plaça sur sa tête, d'un geste sûr, qui d'emblée trouva l'équilibre. « Voilà, » fit-il. Sans plus rien dire, il se mit en marche, abattant la distance à larges enjambées, droit et tranquille, sous son fardeau. Sterny suivait, d'un pas différent, d'un mauvais pas de citadin habitué à circuler parmi les foules, sur l'asphalte. Jeune encore, il atteignait tout au plus la trentaine, long, svelte, robuste malgré sa minceur, il avait une fine tête aux traits nets, bien accentués. Le front droit, le nez mince, un teint de roux, des cheveux très blonds, une barbe légère, au ton plus fauve, qui semblait mousser autour de son menton. De clairs yeux à reflets d'acier, d'une mobilité inquiète, qui cherchait toujours, ne se fixait jamais, se voilait souvent. Le chemin filait à plat, coupant les prés marécageux où pointaient les mouchets argentés des linaigrettes, traversait une partie du village de Serviese, puis, bifurquant à angle droit, conduisait en quelques centaines de pas au pied de la montagne, qu'il gravissait en lacets par une gorge étroite, longeant ou traversant un ruisseau tout en cascade. « C'est par là qu'on passe ?» demanda Julien à son compagnon. « Oui, monsieur. » « Valanche est là-haut. » Sterny s'arrêta pour regarder en l'air, étonné de l'ascension qu'il allait entreprendre. « Le chemin est bon ? » demanda-t-il encore. « Oh, bien sûr, c'est une route à chars. » Cela l'intéressait, et depuis l'horrible drame, c'était la première fois que l'aspect du monde extérieur distrayait sa pensée. En vain avait-il cherché les sites célèbres de ce pays, pourtant le sien, qu'il connaissait si peu, errer par les chemins de fer de l'Oberland ou les bateaux du lac de Lucerne, stationner devant les points de vue fameux, écouter les sonneries du cor des Alpes ou les yodelers des pâtres de louage qui guettent les convois aux abords des hôtels. Partout, le souvenir implacable le suivait. Partout, il retrouvait la tache sanglante imprimée sur sa vie. Partout, il se reprenait à observer les symptômes de son mal mystérieux. Insomnie, douleur lancinante, lassitude infinie des membres, tristesse surtout. Tristesse noire qui l'enveloppait d'un voile de ténèbres, endeuillait sous ses yeux les foules gaies ou les paysages sereins, le harcelait d'affreuses idées, terriblement précises dans leur irréalité. Mal que les médecins, jusqu'alors impuissants à la combattre, définissaient une crise de neurasthénie aiguë, provoquée par une émotion violente et entretenue par de persistantes préoccupations. En voyageant seul pour fuir le mal, il y pensait sans cesse. Un jour que l'obsession le forçait d'en parler à n'importe qui, il avait causé plus familièrement avec Georges Croissy, son voisin de table à l'hôtel de la Jungfrau. Dévoilant un rien de sa souffrance à cet inconnu, qui voulut bien lui faire l'aumône d'un peu d'attention, il dit « Je sais qu'il me faudrait du silence, de la tranquillité, de la simplicité, des choses reposantes et saines, enfin. Je croyais les trouver ici, mais ces hôtels sont bruyants, ces touristes insipides. C'est un va-et-vient de caravansérails, un insupportable brouhaha. » Alors le peintre, avec un intérêt sympathique, « Pour trouver cela, mon cher, renoncez d'abord à la Suisse des étrangers où vous vous êtes fourvoyé. Allez chercher l'autre, la vraie, la Suisse des villages alpestres, qui ont conservé leur vraie vie près des pâturages qu'on ne montre pas, mais où l'on fait du beurre et du fromage pour de bon. Vous devez la connaître, cette Suisse-là. N'êtes-vous pas du pays ?
Il y a si longtemps que je l'ai quittée. D'ailleurs, je n'ai jamais vu la montagne. Mes souvenirs de jeunesse tiennent à Lausanne, où j'ai fait mes premières études il y a quelque 15 ans de cela. Depuis, je n'y suis jamais revenu.
Eh bien, je vais vous renseigner. « Allez à Valanche. »«
Valanche ? » ?»«
Un village encore inconnu, un des derniers. Un lieu de concorde et de paix, habité par de braves gens familiers. Un centre d'excursion que les alpinistes apprécient à son prix. Une de ces retraites comme on en rêve, pour aimer et pour mourir. C'est en Valais, dans une des vallées latérales qui descendent des Hautes-Alpes au Rhône. « Allez-y, je vous rejoindrai dans un mois, car j'adore ce coin perdu du monde. J'y vais chaque année. Ma saison ne serait pas complète si je n'y passais au moins quelques jours. » Croissy s'animait, les yeux brillants, l'accent légèrement ironique de sa voix se faisant attendrir. À la prière de Julien, il lui traça un plan de route, par la Grimsel et la Furka. En sorte que Sterny arrivait, après 2 jours de voyage en diligence, à travers un désert tragique de cimes rocheuses, entassées par les convulsions de la terre, en des temps fabuleux, le long du fleuve qui descend de son glacier et roule vers la plaine ses eaux grossies de torrents et d'avalanches. Sa pensée, fatiguée par la rapide succession des aspects entrevus, s'en retournait à Interlaken, auprès de cet homme laborieux, épris de son art, amoureux de ses montagnes, et il songeait « Heureux ceux qui ont un intérêt dans la vie et ne la gâchent pas, comme j'ai jusqu'à présent gâché la mienne. Heureux ceux qui aiment le pays où le sort les a fait naître, ceux qui ne le quittent pas, ceux qui vieillissent parmi les paysages qu'ont réfléchi leurs yeux d'enfant. Heureux ceux qui s'absorbent dans ce qu'ils voient, ceux qui jouissent de la beauté du ciel ou de la bonté de leur présente,
ceux qui n'ont pas devant les yeux un voile noir ensanglanté. Comme il revenait ainsi à son idée fixe, il s'aperçut soudain que la route montait plus fort, sous des châtaigniers dont les fines fleurs en aiguilles jaunissaient déjà. Son pas irrégulier était trop rapide, il s'essoufflait. Il ne put s'empêcher de murmurer, en s'arrêtant pour reprendre haleine, « C'est raide !» Son compagnon, en le regardant avec une nuance de dédain que tempérait une expression de bonté indulgente, répondit « Eh bien, allons plus doucement !» Il ralentit son pas, sans que Julien parvînt à régulariser le sien. Les lacets zigzaguaient toujours le long du même courant d'eau, mais les châtaigniers au tronc épais, aux rameaux réguliers chargés de feuilles claires, devinrent plus rares. Des noyers les remplacèrent, plus sveltes, plus tourmentés, quelques-uns s'élançant dans un geste de passion, tendant vers la route leurs longues branches comme des bras ouverts. Sous leur ombre s'épanouissaient de lourdes campanules aux pâles corolles poilues ou des cloches frêles de fines digitales, tandis que le rouge vif des petites fraises mûres luisait parmi les fougères, les herbes, les mousses. Un instant, Sterny avait pu croire que le vert du feuillage qui caressait ses yeux, l'eau du ruisseau dont le champ le berçait, la bienfaisante fatigue de la marche, triompherait de sa hantise. Mais non. Voici que, comme il cessait de regarder les formes de noyer ou les découpures des fougères, il revécut, dans un éclair d'angoisse, la scène inoubliable. Il entendit siffler les balles, dont une les raflait, tandis qu'une autre atteignait la femme en plein cœur. Il reconnut le regard des yeux révulsés qui se fixèrent une seconde sur lui avant de s'éteindre, dans une indicible expression d'épouvante. L'hallucination fut si forte qu'il s'arrêta, chancelant, près de défaillir. Puis l'image se dissipa, aussi vite qu'elle s'était formée. Il respira, comme au sortir d'un affreux cauchemar. La seule chose réelle, c'est que le paysage lui souriait de sa fraîcheur et de sa grâce, et que son porteur l'observait, d'un air à peine malicieux, qui allait de l'étonnement à la compassion. « Nous marchons encore trop vite ?» dit le montagnard. « Est-ce que monsieur veut s'arrêter ?» Julien refusa du geste. Il ne voyait plus le meurtrier qui croisait les bras dans un geste de résolution, le cadavre crachant son sang par les trous de trois balles, la tête livide de la morte, les figures effarées des survenants. Mais, pour la millième fois, son cerveau, qui s'épuisait à broyer la même matière, reprenait sa vaine besogne. « Pourquoi cela m'est-il arrivé à moi ? Justement à moi ? Des foules de jeunes gens vivent comme j'ai vécu, prennent les femmes des autres, les aiment ou s'en amusent. Elles ne meurent pas sous leurs yeux. Ainsi, de telles catastrophes ne surviennent que dans les mélodrames. Pourquoi donc moi, moi seule, en ai-je une dans ma vie, une qui n'est pas un mauvais rêve, réelle, certaine, dont les moindres détails se sont photographiés dans mes yeux? Pourquoi ne puis-je l'oublier, tandis que d'autres l'oublieraient, peut-être? Pourquoi est-ce que je sens en moi quelque chose qui me condamne à traîner éternellement le regret de cette femme, comme si je l'avais aimée, le remords de ce crime, comme si je l'avais commis? Une malédiction qui me poursuit, un arrêt qui me défend de vivre, comme si cela n'avait pas été, de jouir librement de l'air, de la lumière, de la sérénité des choses, des biens dont tout homme peut réclamer sa part. Oui, pourquoi? Pourquoi? Ainsi il s'enfonça de nouveau dans cette série de questions insolubles qui, depuis plus de 3 mois, le harcelait comme des mouches malignes ou le ballottait comme une mère irritée. Et d'autres images, moins nettes, moins affolantes, traversèrent sa mémoire. La cour d'assises, les juges, les avocats, le meurtrier entre deux gendarmes, la foule houleuse et tendue murmurant à son entrée « C'est lui, c'est l'amant !» Il entendit les murmures qui s'élevaient à chacune de ses réponses, comme s'il était le dernier des misérables pour avoir fait ce que tant d'autres font. Et les bravos qui éclatèrent quand le chef du jury rapporta, en faveur du meurtrier, un verdict d'acquittement. Il se vit lui-même, comme s'il eût été son double, s'éloignant, seul, s'enfuyant par les rues comme une bête traquée disparaît dans les fourrés, étant peut-être le vrai coupable, étant en tout cas le vrai puni. Oh, l'injuste destinée, incompréhensible, qui le poussait à la folie parce qu'une horrible aventure avait arrêté sa vie, ébranlé ses nerfs, secoué son cerveau. Comme il avait inconsciemment pressé le pas sous l'aiguillon de ses pensées, le souffle lui manqua de nouveau. Il haletait. Il dit d'une voix faible « Reposons-nous un peu ». En même temps, il se laissa tomber au bord du ruisseau, épongea son front trempé de sueur, le rafraîchit avec son mouchoir mouillé dans l'eau froide. Puis, quand les battements de son cœur et de ses artères se furent calmés, il se releva en demandant « Avons-nous fait la moitié du chemin ?» Son porteur, qui attendait, debout, campé sur ses jambes vigoureuses, désigna de la main, deux ou trois lacets plus haut, une croix de bois dressée sur un roc, et répondit, le bras tendu, « La moitié, c'est là !» Ils firent quelques pas. Honteux d'avoir trahi sa lassitude, Sterny cherchait à s'en excuser. « Il fait si chaud » dit-il. Pourtant, l'ombre du soir s'amassait au fond de la vallée et gravissait déjà la montagne. Le porteur ne répondant rien, Sterny n'insista pas. Mais au bout d'un moment, il demanda, pour parler, « Vous êtes de Serviez ?» L'homme répondit, « Non, je suis des Crêtes. »« Les Crêtes ? Où est cela ?»« Tout près de Valanche, au-dessus. » Il hésitait à en dire davantage. Il finit pourtant par ajouter, comme à regret, et seulement parce qu'après tout, ce mauvais marcheur dont il portait la valise ferait peut-être des courses plus tard. « Je suis guide. » Aussitôt, Sterny s'intéressa davantage à lui. Il l'avait encore à peine regardé. Il remarqua la vigueur tranquille de ses membres robustes, sa forte tête plantée sur un col de lutteur, le jeu souple de ses muscles, le dessin régulier de son visage hâlé que relevait une moustache brune aux poils rudes, l'expression de sereine bonté que prenaient volontiers ses yeux gris, très beaux. « Ah, vous êtes guide !» reprit Julien. « Comment donc se fait-il que vous vous soyez chargé de mes bagages ?»«
On fait ce qu'on peut, monsieur. On n'a pas encore beaucoup de courses. »
« Vous en faites souvent ?»«
Bien sûr, quand la saison est bonne. » »«
Tous les jours ?»« Deux ou trois par semaine, ça dépend. »
« Comment vous appelez-vous »«
Cascaté, César. »
Sterny s'essoufflait trop pour continuer la conversation, d'autant plus que le chemin devenait plus ardu, poudré de la fine poussière des ardoises qu'on descend sur de petits chars à roues basses, comme il venait justement d'en passer un. La région des noyers finissait à son tour. Maintenant, c'était des sapins, qui plantaient leurs longues racines quêteuses parmi des écroulements de roches, dressant leurs troncs, parfois si dépouillés de branches du côté du vent, qu'ils éveillent l'idée de grands vieillards maigres, robustes et chauves, que la vie aurait sans cesse tenu ployés sous la même épreuve. Dans la forêt, plus épaisse, les fleurs étaient plus rares, mais les fougères foisonnaient, les bruyères, les myrtilles, entre les roches séculaires apportées ou polies par les vagues des glaciers préhistoriques. Bien que plus courts, les lacets semblaient interminables aux pieds fatigués de Sterny,
que la honte de paraître faible empêchait pourtant de demander une nouvelle halte. Soudain, Cascaté s'arrêta, se retourna et dit en étendant la main dans son geste familier « Maintenant, regardez la plaine. Ensuite, vous ne la verrez plus. » Au coude de la route, les sapins s'écartaient, ouvrant comme une fenêtre sur la vallée étroite, diminuée, réduite aux proportions d'un minuscule coin vert dans l'étranglement des montagnes. Des marais, des prés fauchés, des bouquets d'arbres, des champs de blé, jaunissants, nuançaient sa surface unie, que morcelaient des routes blanches et planes, dont une rejoignait le ruban gris du Rhône. Du bord opposé du fleuve s'élevaient des parois presque perpendiculaires, à la base aride, au sommet verdoyant encore baigné de soleil, dont les flancs portaient, égrenés, suspendus, quelques chalets de bois, muets et inanimés, d'une tristesse somnolente sous la lumière. Paisible, fraîche, monotone et fertile, la vallée fuyait ainsi vers les villes invisibles qui l'attendent plus loin au sortir de ses défilés. Et Julien songea, presque gaiement, que pendant un temps, il ne saurait plus rien de ce monde éloigné, auquel, seul à cette heure, le rattachaient les voix de ce ruban de terre qui allait disparaître. Nous sommes ainsi faits, que nous oublions volontiers le drame aussitôt que change le décor. Assujetties aux choses, nos âmes en subissent les mystérieuses suggestions. C'est pour cela sans doute qu'en tournant le dos à cette dernière apparition de la plaine, après l'avoir un instant contemplée, Sterny put croire qu'elle s'évanouissait avec le cortège maudit de ses souvenirs, dont aucune image cruelle ne le poursuivrait là-haut. Il se remit en marche d'un pas plus rapide, comme s'il venait de s'alléger d'un lourd fardeau, qui roulait peut-être, invisible, le long des pentes, à travers les sapins, les noyers, les châtaigniers, jusqu'au fleuve. La forêt cessa. Une clairière s'ouvrit. Des champs attendaient la faux, semés de boutons d'or, de marguerites, de reines des prés, dont les hautes tiges fleuries se balançaient sur l'herbe mûre. À droite, en pente vive, grimpaient des éboulis d'ardoises, jusqu'à une lignée de chalets groupés autour d'une maison blanche. À gauche, par-delà les prés, moutonnaient des roches moussues, pareilles à des vagues de pierre. Puis les sapins et les mélèzes reprenaient. Au bord du chemin, déjà moins rapide, une cabane portait cette enseigne, en grosses lettres gauchement dessinées. Vin, bière, lait frais. Une voiture attendait devant le seuil, celle qui avait si bruyamment quitté la gare de Serviez. Comme César et Sterny approchaient, ils virent le personnage de tout à l'heure sortir de la cabane avec son cocher et deux compagnons, remonter dans le char, en gesticulant toujours, tandis qu'un petit homme, son chapeau de paille à la main, se confondait en révérence. « Voulez-vous vous rafraîchir avant d'arriver ?» demanda Julien à son porteur. Cascaté répondit, sans montrer aucun empressement, « Comme vous voudrez. » Le petit homme, resté debout sur la porte, s'effaça pour les faire entrer. Avec son teint olivâtre, son front bombé, son nez écaché, ses lèvres minces, ses cheveux plats, très noirs, il semblait d'une autre race que le guide, auquel il se mit pourtant à parler en patois, après avoir salué l'étranger. Julien commanda de la bière, que le petit cabaretier apporta sans aucune hâte, avec de lents mouvements d'ours paresseux. Ils trinquèrent. « Qu'est-ce que c'est donc que cet homme qui était là tout à l'heure ?» demanda Julien. Les deux paysans se regardèrent. Puis le cabaretier précisa « Celui qui est reparti en voiture ?»« Oui, c'est monsieur de Rarogne, » dit le guide. Sans daigner s'expliquer davantage, il se tourna vers le cabaretier en demandant Est-ce qu'il est resté longtemps, là, Nantelme ?
Un bon quart d'heure, au moins.
Est-ce qu'il a dit quelque chose ?
Il a dit que mon vin était fameux.
C'est tout ?
Il causait avec Frédéric Elie et le président.
Tu n'as pas écouté ?
Un peu.
Nantelme était venu s'asseoir familièrement à côté de ses clients. Il secoua la tête, fit une espèce de moue dédaigneuse et dit
« Tout ça, c'est des histoires que je ne veux pas savoir. On verra ce qu'on verra, voilà tout. Et je dis que c'est un malheur qu'ils viennent par ici. »
César rit avec malice en clignant de l'œil.
« Ça n'empêche pas, fit-il, que tu es tout content qu'il ait trouvé ton vin bon. »
« Bien sûr, dit Nantelme, ces choses-là, ça fait toujours plaisir, d'où que ça vienne. »
La bouteille était bue. Julien se leva, ils saluèrent le petit cabaretier et se remirent en marche. Julien demanda « Qu'est-ce que c'est que cet homme ?»«
Nantelme Testaz, répondit le guide, c'est une espèce d'original. Il a voyagé, il a été en Amérique. » Il a fait le bûcheron au Colorado. Sans doute qu'il a gagné un peu d'argent par là-bas. Mais il dit comme ça qu'il ne veut plus quitter le pays, que partout ailleurs il s'ennuie.
« Je pensais à l'autre, dit Julien, celui que vous appelez monsieur de Rarogne.
Vous n'avez jamais entendu parler de lui ?
Non.
C'est lui qui a le grand hôtel de l'Estral et les hôtels qui sont autour. » Et il en a aussi à l'Ouèche, des hôtels, à Zermatt, à Saxon, dans tout le Valais, quoi.
Il est donc très riche.
Bien sûr qu'il est riche.
Cascatet ne tenait évidemment pas à renseigner son compagnon sur monsieur de Rarogne. Aussi, comme un nouveau groupe de maisons apparaissait sur la droite, au-dessus des ardoisières, il en prit prétexte pour changer de conversation. Il le montra en étendant la main et dit « Ça, c'est les crêtes, c'est là que je demeure. Ce chalet qui s'avance, avec un cerisier au jardin, c'est le mien. » Il y avait un peu d'orgueil dans l'ampleur de son geste, dans la vibration de sa voix. Le contentement légitime du travailleur économe qui, devant la maison qu'il a bâtie, la cheminée qui fume pour lui, le coin de terre où poussent ses légumes, pense aux soucis des mauvais jours passés.
« C'est un beau chalet, » dit Julien.
En effet, le chalet avait bon air, tout battant neuf, mi-parti en pierre et en bois, avec des volets gris, des rideaux derrière les vitres, une galerie ajourée qui longeait le premier étage. Satisfait de l'éloge, César reprit. « En été, je le loue à des étrangers. »
« Et vous, pendant ce temps, où logez-vous ? »
« On s'arrange toujours. »
Après un silence, César ajouta « Cette année, je l'ai loué à Charles Gay. »«
Charles Gay ?
Vous ne savez pas qui c'est ? » ?»«
Non. »
Cette fois, le regard de Cascatet devint tout à fait méprisant. Son voyageur ne connaissait pas Rarogne, ne connaissait pas Charles Gay, ne connaissait rien de rien. Condescendant, il expliqua. Charles Gay, le conseiller fédéral, celui qui est vice-président de la Confédération cette année.
Oh, diable ! Fit Julien.
Sans indiscrétion, combien louez-vous votre chalet à un si grand personnage ?
300 francs pour la saison.
Ça n'est pas cher.
Cette réflexion étonna le guide et mit en travail son esprit un peu lent. Il la rumina pendant une centaine de pas et reprit
« Bien sûr que ça n'est pas cher, mais vous savez, ici, l'argent, ça n'est pas comme à la ville. »
Il se tut de nouveau, réfléchit encore et ajouta quelques pas plus loin. « Plus tard, on augmentera le prix. » Jusqu'alors désert, le chemin s'animait aux approches du village. Une petite voiture vide, à roues basses, passa. Le cocher en blouse bleue à côté du cheval. Puis, traînés par des ânes pelés et vaillants, deux chars plats chargés d'ardoises. En groupe de 3 ou 4, hommes, femmes et enfants, des paysans dévalèrent par les sentiers, le long des pentes, pour rejoindre la grande route. Quelques-uns portaient leurs outils sur l'épaule. La plupart, d'énormes charges de foin, nouées dans des draps, placées en équilibre sur leur tête et soutenues par leurs bras levés. Leurs coups ployaient, leurs échines ployaient, leurs genoux ployaient. On apercevait à peine sous les fardeaux leurs visages congestionnés et suants.
« Les femmes aussi, les enfants !» s'écria Sterni.
« Il faut bien que tout le monde s'en mêle, » dit César. Toujours par condescendance pour l'ignorance de son voyageur, il ajouta « Vous comprenez, ici, on fait tout à dos d'homme. »
Et la charge d'un grand gaillard à barbe grise, qui montrait par sa chemise entr'ouverte une poitrine velue, luisante de transpiration, lui arracha ce cri.
« Balthazar, créons, il n'y a encore que lui pour porter des voyages comme ça !»
À ce moment, Julien, dont l'œil commençait à distinguer les détails, perçut le morcellement de ses pentes vertes qui d'abord ne semblaient qu'une vaste prairie en talus. C'étaient de petits champs, juchés les uns par-dessus les autres, étroitement mesurés, d'accès difficile. Aussi haut que le regard pouvait les suivre, jusqu'à la lisière noire de la forêt, ils montaient en étage, interrompus de ci de là par des éboulis ou des rocailles, si mesquins parfois que les brins d'herbe, les grappes d'avoine ou les épis devaient y pousser un à un, comme des fleurs rares dans les corbeilles d'un jardin de choix. Ces champs minuscules trahissaient l'avarice d'un sol qu'il a fallu conquérir sur les schistes stériles ou créés par lambeaux, d'un sol que le labeur des hommes avait arraché, bribe à bribe, à la nature, à mesure qu'augmentaient les familles, que poussaient les générations. Et l'on songeait à tous les « voyages » qui, d'un bout de l'année à l'autre, montent et descendent les sentiers ardus, à toutes les échines de femmes qui se castent à cette besogne, à tous les pieds d'enfants qui se meurtrissent sur les cailloux.
« Vous avez une dure existence, » dit Julien.
César tourna vers lui sa belle tête, qui se mouvait librement sous la valise, et répondit
« Dure ? Pas tant ?»
Il ne donna pas d'autres explications. Alors, sans toutefois formuler l'idée encore vague qui s'esquissait au fond de lui, Julien pressentit qu'aucun travail n'est pénible quand il est normal et sain, quand il se poursuit au grand air libre, dans le jeu des muscles et des poumons solides, quand il se transforme en blé mûr ou en herbe grasse, remplit les granges pour l'hiver, marque la glorieuse victoire que les plus humbles parmi les hommes remporte au jour le jour sur la parcimonie de la terre. Tout à coup, la montée cessa. La route tourna, le village apparut. C'était de vieux chalets de bois, aux toits couverts d'ardoises irrégulières, brunis, tannés par les années, serrés les uns contre les autres, comme pour se prêter un appui mutuel, autour du clocher de la grande église en grisaille qui semblait les rallier, les observer, veiller sur eux. Derrière les fouillis des maisons dont les cheminées fumaient, tassées parmi les champs qui déroulaient de nouveau leur verdure coupée de rochers, d'autres chalets apparaissaient encore, isolés ou par petits groupes, pareils à des traînards qui n'ont pu rejoindre le troupeau. Des silhouettes de montagnes fermaient le paysage. Les unes, des deux côtés de la vallée, massives, remplissant lourdement un coin de l'espace. Les autres, dans le fond, d'une élégance infinie, montant vers le ciel en ligne pure, avec des grâces d'acanthe ou de fines découpures aussi légères que celles du vent dans les nuages. Julien s'arrêta, les yeux ravis.
« Ce sont de hautes montagnes ? » demanda-t-il.
« Ça ? Non, » répondit Cascaté. « C'est des montagnes à vaches. Les hautes, elles sont par là derrière, on ne les voit pas.
Comment s'appelle-t-elle, celle-ci ?
Le guide, évidemment dédaigneux de ces sommets sans faste que méprisent les alpinistes, les nomma pourtant. Ici, à droite, c'est le sexe de Bell. En face, ces deux pointes, on les appelle la femelle et la dent de Mannery. Au fond, celle où il y a du soleil au sommet, c'est la dent rouge. À gauche, ces trois cimes rondes, de l'autre côté de la Tause, car c'est la Tause qui coule là-bas. Eh bien, c'est la Matz. Voilà.
Ils entrèrent dans le village, dissimulés dans un creux du terrain qui s'ouvre par une place triangulaire d'où filent, à travers l'enchevêtrement des chalets, de tortueuses ruelles, pareilles aux rides d'une main très vieille. D'un côté, l'église en profil, avec son grand mur blanc qui troue deux fenêtres en ogive, et dans un renfoncement, son porche à colonnes de bois, qui s'ouvre sur le cimetière. La maison de commune, plus neuve, plus blanche, la porte-fenêtre de son premier étage donnant sur un balcon de fer, deux grands chalets, très vieux, tout bruns, dont le bel aspect raconte une longue série de générations laborieuses et récompensées. En face, les deux hôtels rivaux, séparés par une ruelle, construits de telle sorte qu'ils semblent se tourner le dos. Le grand hôtel, de la dent grise, d'aspect moderne, avec une enseigne en lettres jaunes suspendue à son balcon, et le chamois, formé de deux maisons irrégulières, réunies par un artifice de maçonnerie et recouvertes du même crépi. Une échoppe de cordonniers et deux ou trois chalets, très humbles, ceux-là, aux portes basses, aux parcimonieuses fenêtres à trois petits carreaux, ferment la place. Devant la maison commune, deux troncs d'arbres évidés, abrités par un toit d'ardoise, servent de fontaine, de lavoir, d'abreuvoir. Il y a tout un passé qui flotte autour de ces anciennes bâtisses, qui les marque de son caractère d'austère vaillance, de probité tranquille, de silence laborieux. Elles s'harmonisent si bien avec le paysage qu'elles semblent à peine œuvre des hommes. On les croirait là depuis toujours, apportées et oubliées, comme les roches arrondies par les vagues lentes de l'antique glacier disparu.
« À quel hôtel faut-il aller ?» demanda le guide.
« Au chamois. »
Justement, l'hôtesse apparaissait sur le seuil. Encore jeune, elle avait un visage paisible, un peu triste, de beaux yeux bruns, limpides, des cheveux bruns lissés en bandeaux sur le front, nattés et roulés en chou derrière la tête. Elle portait une robe de demi-deuil, noire à pois blancs, et un tablier noir. Deux fillettes d'une dizaine d'années, qu'à leur extrême ressemblance on devinait jumelles, se tenaient à ses côtés, toutes câlines. En voyant approcher Julien, elle lui adressa un gentil sourire, échangea deux phrases en patois avec Cascaté, appela une bonne et lui dit « Vous conduirez monsieur au numéro 16 ». Tout cela posément, avec une lenteur sereine qui révélait une parfaite sûreté de soi-même. Elle dit encore « La chambre est au second, monsieur. Elle donne sur la place. J'espère bien qu'elle vous plaira. » N'ayant point l'habitude de la marche, Sterny se sentait exténué de sa course, les membres rompus, le corps enfiévré. Il se laissa tomber dans son unique fauteuil où il demeura un moment sans pensée, à jouir confusément de sa fatigue et de son repos. La cloche du dîner le remit debout. Il s'approcha de la fenêtre. Par les étroites ruelles, des étrangers, ses futurs compagnons de table, débouchaient sur la place. C'étaient des femmes en toilette simple, des hommes en chemise de flanelle, avec des cordons de couleur en guise de cravate. Il tâcha d'examiner les figures. Elles lui parurent insignifiantes ou vulgaires. Alors, il fut repris de l'incurable tristesse, dont les distractions de la montée avaient un instant allégé le poids. « Ici aussi, songea-t-il,
je serai seule. »
Une autre pensée vint corriger l'amertume de cette réflexion. « Mais du moins, personne ne connaîtra mon histoire. »
Par-delà les maisons qui fermaient la place, la Matz allongeait sa longue muraille hérissée de sapins. Ses trois têtes rondes s'assombrissaient dans le crépuscule. Elle semblait si proche qu'en la regardant, Julien éprouva tout à coup une douloureuse impression d'étouffement, comme si la massive montagne eût ajouté son poids à celui qui déjà l'oppressait. L'aspiration vague et folle qu'il connaissait bien, sa nostalgie de l'ailleurs, le saisit avec violence. Il s'écria à haute voix « Non, non, je ne resterai pas ici. »
Partir encore ? Pour aller où ? Les spectacles du monde peuvent changer, mais non les yeux qui les contemplent, ni les âmes qui les réfléchissent. Où que j'aille, ne serais-je pas avec moi ?
Ainsi évoqué, ce « moi », éternel compagnon maussade, presque un ennemi, lui apparut soudain sous ses plus fâcheux aspects. Il le vit comme avec des yeux indépendants. Il le jugea. Un être inutile, oisif, fastidieux, sachant trop de choses qu'il vaut mieux ignorer, ayant vécu trop vite d'une vie dont le dégoût lui montait aux lèvres. Avant la tragique secousse qui l'avait brusquement éclairée, il végétait, inconscient de sa misère, occupé quelques heures par ses fonctions, à peu près illusoires, au contentieux d'un grand établissement de crédit, le reste du temps par ses plaisirs, le monde, le sport, le cercle, les courses, la fête. Les jours passaient, les saisons, les années, il suivait sa pente, sans jamais prendre la mesure de son cœur, sans peser ses futiles pensées. Voici qu'à présent il se connaissait, avec ses instincts secrets, sa boue intérieure, sans plus pouvoir s'ignorer ni se fuir. C'était bien là son mal, le vrai, celui que les médecins, ces ignares, dénommaient neurasthénie aiguë. Le mal qui le chassait depuis 3 mois de lieu en lieu, dont les drogues ni les douches n'auraient jamais raison. Les étrangers disparurent dans la salle à manger, d'où sortit par les fenêtres ouvertes un vague brouhaha de conversations et de fourchettes. Des groupes nouveaux se formèrent sur la place. Des paquets de linge posés sur leur tête, qui tout à l'heure ployaient sous la charge du foin, des gamins cramponnés à leurs jupes, les femmes s'installèrent au lavoir, à genoux devant l'eau claire, montrant leurs bas et leurs sabots. Elles babillaient fort, dominant de leur voix le clapotis des battoirs sur le linge humide, pendant que leurs marmots barbotaient autour de la fontaine. On amena des vaches à l'abreuvoir, puis un mulet qui se roula dans la poussière avec des grognements de plaisir. 2 ou 3 vieillards, en vieux brosse-tout de laine, traversèrent la place en s'appuyant sur des cannes pour aller s'aligner sur un banc appuyé au mur du cimetière où ils restèrent silencieux, à ruminer ensemble des choses très anciennes. Des hommes, en blouse ou en bras de chemise, s'installèrent à l'aligner sur une poutre, devant l'échoppe du cordonnier. À longs intervalles, ils échangeaient des propos que soulignaient leurs gestes graves, et demeuraient au repos, la pipe à la bouche, silencieux comme le soir solennel, dont les ombres envahissaient la vallée. Soudain, un vacarme de clochettes, de piétinements, de bêlements, ébranla l'air. C'étaient les chèvres qui redescendaient des hauteurs, folles encore des bonnes herbes broutées au flanc des précipices, agitant leurs petites queues frétillantes et leurs drôles de barbiches. Aussitôt, les enfants se précipitèrent en criant hors de l'hôtel pour leur offrir du pain. Ce fut un rapide tumulte. Puis elles se dispersèrent, pressées d'offrir leurs mamelles gonflées aux femmes qui les attendaient devant les portes des étables. Les laveuses ne cessèrent point de battre leur linge. Les hommes fumaient toujours leurs pipes recourbées. Les silhouettes s'effaçaient dans le crépuscule. Alors, Julien entendit chanter dans sa mémoire, sur leur musique chargée de regrets infinis, ces deux vers d'un lied que Paris avait fredonné tout l'hiver. « mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. » Il les répéta plusieurs fois, comme pour s'imprégner de leur intime nostalgie, en les appliquant au spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Que ces gens étaient paisibles! Laborieuse ménagère qui prolonge la journée pour assurer la propreté du lit, vigoureux ouvriers qui jouissent d'un repos bien gagné en savourant la fumée de leur grossier tabac. Quel bon sommeil allait verser sur eux la nuit fraîche et sereine! Comme ils se réveilleraient dispos à l'aube pour reprendre le travail bienfaisant dont ils se délasseraient demain soir, assis au même endroit. Ils s'en délassaient aujourd'hui. Ah, s'ils pouvaient se perdre, se noyer dans cette simple vie! Et, qui sait, peut-être que, peu à peu, elle l'enveloppait comme la nuit immense et belle enveloppait le village avec les montagnes. Peut-être qu'il se fondrait dans ces choses jusqu'à n'être plus qu'un atome du paysage. Peut-être que son âme triompherait enfin de sa propre tyrannie pour se mêler, meilleure et plus pure, à ces âmes si différentes. Peut-être que ces hommes lui diraient le secret qu'ils ont, sans doute, pour vivre ainsi robuste, serein et si calme.